des sujets les plus sérieux d'entre tous qu'enseigne la Bible, c'est-à-dire qu'enseigne la Bible en ce qui concerne l'enfer. Nous ne ferons, comme vous pouvez le constater, absolument aucune distinction entre le lieu d'attente destiné à ceux qui ne sont pas préparés à rencontrer Dieu et l'enfer lui-même. Je ne ferai pas non plus de différence entre l'endroit où demeurent les morts injustes et ce même enfer. Il n'existe en fait aucune différence entre les deux, sinon que l'un est limité dans le temps et que l'autre se situe dans l'éternité. C'est pourquoi vous me verrez citer certains passages sans faire de distinction entre eux, car en ce qui me concerne, ils sont exactement les mêmes. Dans le 16e chapitre de Luc, nous lisons ceci à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse vie et brillante existence. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Ces passages de la Bible nous apprennent trois faits importants. Premièrement, deux hommes menaient chacun leur existence. Deuxièmement, ils meurent tous les deux. Troisièmement, leur situation dans la vie suivante s'inverse, c'est-à-dire qu'elles sont exactement l'opposé de ce qu'elles étaient sur terre. Le riche est maintenant mendiant en enfer et le pauvre bourgeois se transforme au paradis en homme fortuné. Sur terre, le riche était vêtu de pourpre et de fin lin, mais dans la vie suivante, il est entouré de flammes. Par contre, le pauvre, couvert d'ulcères, entouré de chiens et vivant des miettes tombant de la table du riche, se voit maintenant environné d'anges. Le riche vivait somptueusement, mais en enfer, une seule goutte d'eau lui est refusée pour se rafraîchir la langue. Le pauvre qui avait quant à lui souffert toutes sortes de mauvaises choses, et dans cette nouvelle vie réconforté, apaisé, heureux. Cette série de conclusions nous amène tout naturellement à poser une question. À quoi ressemble l'enfer? Tout d'abord, l'enfer est éternel. En Matthieu 25, 46, le Seigneur dit bien, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » En Romains 16, 26, on nous dépeint Dieu comme étant éternel. Hébreux 9, 14 parle également de l'Esprit comme étant éternel. Voici donc trois passages de la Bible en réalité, quatre expressions à prendre en considération. Les voici dans l'ordre. Le châtiment éternel, la vie éternelle, le Dieu éternel, l'Esprit éternel. Dans le langage original, éternel se dit aion. Aionos signifie éternel, qui dure pour toujours, sans fin, qui ne cesse jamais, indéterminé en ce qui concerne sa durée ou encore la fin des fins. Personne ne peut avancer un seul argument contre la doctrine biblique de l'enfer qui nous applique également et avec une force similaire à ce qu'enseigne la parole de Dieu sur le paradis ou le ciel. Ça signifie que si quelqu'un prétendait que la durée d'existence de l'enfer était de, par exemple, 1000 ans, cette même période de temps devrait ipso facto s'appliquer également au ciel, et qu'au même instant, ceux qui sont au paradis cesseraient d'être bénis. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un seul et même mot grec désigne à la fois l'éternité du châtiment de l'enfer et celle de la félicité, du bonheur au paradis. Si l'enfer ne durait que 1000 ans, il va de soi que le ciel ne pourrait pas non plus exister plus longtemps. Par ailleurs, à l'instant même où les maudits verraient leur peine commuée, le Dieu et l'Esprit éternel cesseraient d'exister. Car le même mot utilisé pour décrire la durée du châtiment de l'enfer désigne également la longueur de vie de Dieu et du Saint-Esprit. Répétons-le. Le même mot qui nous parle de la damnation décrit les béatitudes du ciel, ainsi que la durée de l'existence de Dieu et du Saint-Esprit. Dès lors, combien de temps dure le châtiment en enfer? Il durera pour toujours, sans fin, sans cesse. Il y a cependant des gens qui discutent cette position
en affirmant que tout cela est bien trop long à durer, qu'il n'est pas juste de prendre un être qui n'a vécu que 5 ans en désobéissance envers Dieu pour le jeter dans les tourments pour l'éternité. Eh bien, s'il est injuste de condamner à jamais quelqu'un qui n'a désobéi que 5 ans, il doit de même être injuste de bénir à jamais un homme qui n'a obéi que durant 5 ans. Et sinon, pourquoi pas? La même argumentation employée pour se débarrasser de la doctrine biblique de l'enfer doit être appliquée avec une force égale à propos de ce qu'enseigne la volonté de Dieu sur le ciel. Mais quelque chose cloche dans tout ceci. Ceux qui n'acceptent pas cette position à la fois simple et logique ne s'aperçoivent probablement pas qu'ils bafouent par là même chaque système de justice existant dans le monde. Comment détermine-t-on l'horreur ou l'énormité d'un acte? Par le temps qu'il a fallu pour le perpétrer ou par l'acte en lui-même? Mettons que je me tienne un revolver à la main et que je commence à tirer sur une foule. Même sans être bon tireur, je pourrais tout de même tuer 3 ou 4 personnes avant qu'on puisse m'atteindre. Supposons qu'il m'ait fallu 30 secondes pour commettre ce forfait. Comment dois-je être puni? Aller en prison durant 30 secondes? Cela ne m'a pris que ce temps-là pour le faire. Devrais-je être enfermé pendant 60 secondes? Triplons ce temps, j'irai en prison 90 secondes. Non, quadruplons, j'irai derrière les barreaux durant 120 secondes. Ai-je satisfait aux exigences de la justice? Nous savons très bien que si j'échappe à la peine de mort, je serai condamné à perpétuité. Et tout cela pour un acte qui ne m'a pris que 30 secondes. Comment peut-on déterminer la portée, la haine et l'horreur d'un acte en tenant compte du temps qu'il a fallu pour le commettre ou de la nature de l'acte lui-même? Il va de soi que c'est l'acte que l'on prendra en considération. Lorsque quelqu'un affirme que le temps qu'on passe en enfer est trop long, il néglige un fait primordial, c'est-à-dire qu'il ne réalise pas la laideur du péché. Il se refuse de le voir tel qu'il est. La chose la plus horrible qu'on puisse faire, c'est de vivre en rébellion avec la volonté de Dieu. La durée de cette révolte importe peu. On peut vivre obstinément en désobéissance avec la loi de Dieu durant 5 ans, 5 mois ou 5 semaines et mourir dans cet état. Et l'on n'en sera pas moins puni en enfer pour l'éternité à cause de cela. Certains diront que l'enfer est par trop horrible. Mais toujours en vertu du même principe. Si l'enfer est trop horrible, le ciel est trop magnifique. En effet, le ciel est à la volonté de Dieu, ce que l'enfer est au péché. Et si nous croyons pouvoir nous débarrasser de l'enfer sous prétexte que sa cruauté est impensable, nous devrions être à même de balayer l'idée d'un paradis en disant qu'elle est trop belle. Quelques-uns disent, je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit jusqu'à présent. Je crois que le feu de l'enfer brûlera éternellement. Je crois également que le châtiment sera éternel, mais je considère que vous méprenez quant à la signification du mot châtiment. Certaines personnes croient en effet que lorsqu'un homme meurt, qu'il est annihilé, qu'il est retranché, qu'il a tout simplement cessé d'exister. Elles professent que lors de sa mort, l'être humain retourne où se trouvait Adam avant sa création. Mais où était-il? Voilà. Et il n'était pas. Si nous retournons à l'endroit où se trouvait Adam avant que Dieu ne le crée, nous tombons dans le néant total, nous sommes annihilés, nous cessons d'exister purement et simplement. Lorsqu'Adam apparut sur terre, était-il ressuscité ou créé? La plus élémentaire logique nous amène à dire qu'il a été créé, et que ça ne fait aucun doute. Si le jour de ma mort je retourne où était Adam avant sa création, comment pouvons-nous parler de ma résurrection? Impossible, n'est-ce pas? Nous pouvons envisager ma recréation, mais jamais de résurrection. La doctrine de l'anéantissement total et définitif va logiquement à l'encontre de la croyance en la résurrection des morts. Ce qu'on enterre est l'homme complet. Le retour du Seigneur sera également l'instant de la résurrection. Tous les injustes comparaîtront devant Dieu pour rendre compte des actes commis de leur vivant. Ils seront pesés dans la balance, trouvés trop légers, jetés dans le feu éternel. Mais ces gens prétendent qu'ils seront brûlés en l'espace d'un éclair. Et cependant, lorsqu'ils lisent ce que dit la Bible dit de la seconde mort, ils comprennent qu'il s'agit là d'une seconde mort physique. Notre première mort physique a lieu ici sur terre, et nous en subissons une autre de même nature lorsque nous sommes jetés dans un étang de feu et entièrement brûlés, prétendent-ils. Parfois, ils utilisent le cas d'un chien pour illustrer leur théorie. Lorsque l'animal est mort, il est totalement inconscient, puni éternellement, pourrait-on dire. Lorsque nous sommes livrés au feu, nous sommes comme ce chien, c'est-à-dire mort pour toujours. Le châtiment éternel veut dire être mort éternellement. À l'examen, même superficiel, cette argumentation se révèle absolument ridicule. Prenons par exemple les paroles de Jésus situées en Matthieu 25, 46 et disant « Ceux-ci iront au châtiment ». Le mot traduit du langage originel par « châtiment » est « kolasine », dérivé du verbe grec « kolapso », signifiant « je châtie » ou « je tourmente ». C'est le cas notamment pour 1 Jean 4, 18. La crainte suppose un châtiment. Citons-en d'autres, en Luc 16, 23, le riche leva les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Plus loin, verset 24, il demande une goutte d'eau au pauvre Lazare, car je souffre cruellement dans cette flamme, dit-il. De plus, au verset 25, il supplie également Abraham d'envoyer Lazare vers ses saints frères afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. En Apocalypse 20, 10, il nous a dit, et le diable qui est séduit, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voyons encore certains autres passages bibliques. Apocalypse, chapitre 14, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Six fois, le mot tourment est utilisé pour décrire l'état des méchants ou celui des morts, c'est-à-dire de ceux qui meurent sans Christ. En Matthieu, chapitre 25, verset 46, le mot calopso signifie tourment ou châtiment. Lorsque j'étais jeune, nous tourmentions parfois les chiens en leur attachant une boîte de conserve ou une vieille casserole à la queue. Mais supposons que nous l'ayons fait à un animal mort. Qu'aurions-nous réalisé? Absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas conscient. Vous ne pouvez être tourmenté que si vous l'êtes. Et la signification de Matthieu 25, 46 est là, tout entière. Ceux-ci iront au châtiment éternel. C'est-à-dire une souffrance consciente. C'est ça. L'enfer. Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement entendu, car nous n'avons absolument rien à vendre. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 3130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde, et à lundi prochain, même heure. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est à vous. Je vois tous les jours, le Seigneur m'aime.